Wunderparlement.
Wunderparlement.
Yes, do you have my voice?
Wunderparlament.
Apprendre à faire de la radio.
Il presidente.
Uccie radio.
Apprendi a faire radio.
Leer radio maken.
Chaque mois au Parlement européen à Strasbourg.
En el Parlamento Europeo de Strasburgo.
Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Czekamy na ciebie.
In Strasbourg.
Toi aussi tu peux venir.
Bonjour chers auditrices, chers auditeurs. Vous écoutez l'émission Wunderparlament spécialement Unicité.
Nous sommes volontaires en service civique à Unicité Mulhouse dans les programmes Solidarité Énergie et Booster. Et nous allons vous présenter cette émission. Nous sommes en direct du Parlement européen à Strasbourg.
Nous avons passé la journée avec un micro afin d'interroger les personnes présentes sur différents sujets. Mais aussi pour nous permettre d'y voir un peu plus clair sur la politique européenne.
Merci d'être à l'écoute. Tout de suite, le sommaire de l'émission. Au programme de notre émission, vous pourrez entendre Louison, Erwan, Oriane, Nat. Nous sommes 4 jeunes en service civique à Unicité Mulhouse.
Plusieurs réponses concernant l'implication des jeunes en politique, un sujet réalisé par Nat et Oriane.
François Alfonsi, député de l'Alliance Libre Européenne, est au micro de Louison et Erwan.
Une pause musicale avec un groupe corse.
On part à la découverte de deux associations présente au marché de Noël solidaire du Parlement européen.
On recevra sur le plateau des jeunes scouts de Strasbourg pour une petite interview spéciale pour le premier jour au Parlement.
On recevra sur le... Pour commencer notre mission, Oriane, Nat sont allés interviewer des personnes dans les couloirs du Parlement. Ils se sont intéressés au sujet de l'implication des jeunes en politique.
Bonjour, je m'appelle Martin et je suis photographe au groupe PPE au Parlement européen.
D'accord. Alors, deuxième question, que pensez-vous de l'accès à la politique pour les jeunes ?
Bonne question. Je crois que c'est pas facile parce que, d'un côté, il faut énormément de motivation personnelle. Parce que tout le monde pense que la politique n'est pas accessible, mais ils sont tous assis dans leur fauteuil à rien faire. Alors que, quand on veut rentrer dans la politique, il faut y rentrer.
D'accord. Et troisième question, comment rendre plus accessible et compréhensible la politique ?
Les gens qui comprennent pas tout ce qui se passe, adore utiliser des grands mots pour rendre la chose plus compliquée qu'elle n'est. Alors que ceux qui comprennent très bien ce qui se passe sont capables de l'expliquer à un gamin de 5 ans. Après, comment la rendre plus accessible ? C'est trouver des gens plus intelligents.
Et quatrième question, et vous, comment vous êtes rentré, vous êtes intéressé à la politique ?
En tant que photographe, je suis surtout intéressé par les personnages et les députés même. Et un peu moins par leur message politique.
Gabi Torpiano, je suis de Malte.
Okay. Deuxième question, que pensez-vous de l'accès à la politique pour les jeunes ?
Pas assez peut-être, oui, pas assez.
Comment rendre plus accessible et compréhensible la politique ?
Avec plus d'intérêt de la part des politiques, mais aussi avec plus de dialogue, avec en effet, tout niveau de la population, mais spécialement avec les jeunes.
Et vous, comment vous êtes, est-ce que vous êtes intéressé à la politique ?
Oui, mais pas de participer, très, très intéressé, mais comme citoyenne de Malte, de l'Europe et du monde, en effet.
Alors, je suis Sylvia Marzolf, déléguée pour l'association Enfants du Mékong en Alsace.
D'accord, merci. Deuxième question, que pensez-vous de l'accès à la politique pour les jeunes ?
Alors, je pense ou j'ai l'impression que peut-être il n'y a pas peut-être de choses faites pour l'accès aux jeunes.
D'accord. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour la rendre la plus accessible et plus compréhensible pour les jeunes ?
Alors, je me demande s'il ne faudrait pas commencer un peu au lycée, un petit peu plus. J'étais moi-même enseignante. Peut-être qu'au lycée, faire des petits forums pour parler de la politique, ce serait peut-être pas mal.
Et quatrième question, êtes-vous intéressé par la politique en général ?
Ah ben oui, parce que c'est la vie de notre pays, de notre cité. Oui, c'est très important pour moi.
Je m'appelle Sarah.
Que pensez-vous de l'accès à la politique pour les jeunes ?
Très difficile actuellement.
Et comment on pourrait la rendre plus accessible et compréhensible à la politique ?
En... en s'exprimant peut-être un peu mieux, je ne sais pas.
D'accord. Et vous êtes intéressé par la politique ?
Pas trop en ce moment, non.
Alors moi, je suis une bénévole là, dans une boutique de commerce équitable qui est la pionnière des... C'est une forme de politique aussi d'avoir soutenu les trois continents dans le sud. Et voilà. À ce niveau-là, je fais de la politique.
Du coup, deuxième question, que pensez-vous de l'accès à la politique pour les jeunes ?
Je ne suis pas jeune, alors je ne peux pas me mettre à leur place, mais je dirais que il y a trop de politiques qui, comment dirais-je, qui présentent mal les sujets ou qui se comportent mal aussi. Premier exemple, le Parlement. Et qui fait que les jeunes peuvent être un petit peu démunis et pas forcément... Ouais. Enfin, les jeunes s'intéressent à des sujets plus cruciaux, comme l'écologie. Je trouve que c'est ça, c'est très politique aussi. Hein. L'écologie, bah, le pouvoir d'achat aussi, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il y en a qui n'arrivent pas, surtout les étudiants, à acheter suffisamment de quoi se nourrir. Voilà, c'est plus à ce niveau-là. Hein. Qu'on soit à droite, gauche, bon.
Merci. Et du coup, troisième question, comment on pourrait rendre la politique plus simple ?
Plus simple ? Bah déjà, c'est les politiques qui doivent la présenter de façon plus simple et montrer les bons côtés de la politique et pas les mauvais côtés. Voilà. Bon, c'est trop court. Hein. Si on devait en discuter pendant une heure, j'aurais peut-être plus d'idées. Hein.
Voilà la réponse que nous avons obtenue dans les couloirs du Parlement. Je vais à présent demander à Nat de nous donner son avis en tant que jeune de 20 ans citoyen dans l'Union européenne. Alors Nat, t'en penses quoi de la politique ?
Ce que je pense, c'est une question compliquée. Parce que de base, c'est un milieu qui ne m'intéresse pas du tout. Et, c'est un milieu très complexe. Et, j'ai du mal à répondre. Ah, j'arrive pas à définir parce que en fait, actuellement, les jeunes on a du mal à s'identifier dans la politique.
Tu peux nous dire ce que tu penses de l'accès à la politique pour les jeunes comme toi et moi ?
Alors moi, je pense personnellement que actuellement l'accès aux jeunes à la politique est très compliqué. Car d'abord, il y a plusieurs partis politiques, il y a plusieurs médias qui en parlent. Donc c'est difficile de choisir une idée, de s'identifier. Il y a aussi les politiciens, quand j'écoute les médias, ils ont un langage très compliqué, très soutenu. Et j'arrive pas du tout à comprendre certaines expressions, certains mots, en fait. Et du coup, ça rend encore plus compliqué la chose à la compréhension. Et encore, je trouve aussi que la politique est pas humaine, en fait, quand j'écoute les médias. Enfin, oui, quand j'écoute les médias, en fait, quand ils parlent de nous, j'ai l'impression qu'ils parlent de chiffres, d'argent, alors que nous, on est des humains, en fait. Et voilà. Et en fait, surtout qu'il y a aussi un problème avec la politique, c'est qu'il n'y a pas de transition entre le milieu scolaire et la vie active. C'est-à-dire que dès 18 ans, dès que tu as fini le lycée, tu vas tout de suite voter, en fait. On t'incite à voter, alors tu ne sais pas pourquoi, en fait. Donc oui, il faudrait une transition scolaire.
Tu aurais plusieurs idées pour nous permettre de mieux comprendre la politique et d'y avoir accès plus facilement ?
Oui, bien sûr. Alors d'abord, la rendre plus scolaire. Alors pas au collège, c'est trop tôt, et parce qu'au collège, on se construit. Mais au lycée, plutôt, avoir une heure de cours, par exemple, par semaine. C'est-à-dire qu'en cours, on définit la politique, ce que c'est quoi la gauche, la droite, etc. Du coup, pour amener justement après la vie active, pour l'amener à faire une transition en fait après la vie active, et du coup en parallèle même la sensibiliser, le fait de le sensibiliser à voter pour les jeunes, faire comprendre que c'est une obligation citoyenne. Et peut-être aussi ça pourrait être la solution, ça pourrait être aussi des côtés des politiciens, c'est-à-dire qu'ils pourraient parler plus simplement dans les médias ou autres, ou de l'expliquer ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Sur les réseaux sociaux, parce que ça parle plus aux jeunes. Par exemple, YouTube, TikTok. J'avais vu que Macron, il avait fait une chaîne YouTube où il parlait de ça, justement, de son programme. Et je pense que ce serait une bonne idée.
Et la première fois que tu t'es intéressé à la politique, c'était pourquoi ?
Alors, comme je l'ai dit précédemment, la politique ne m'intéressait pas du tout. Et après mon cursus scolaire, ma mère m'a incité à voter. Et du coup, je suis rentré un minimum dans la politique par obligation citoyenne, en fait, sans forcément la comprendre, enfin réellement la comprendre.
Et enfin, après avoir passé une journée ici au Parlement, t'en penses quoi ?
Alors, on a visité le Parlement européen. Alors oui, c'était vachement intéressant et on a appris des nouvelles choses. J'ai vu des nouvelles choses. Et j'ai vu aussi que c'est un autre univers, en fait. C'est vraiment quelque chose à part. Enfin, j'ai l'impression que c'est quelque chose à part. par exemple, on a visité les locaux des presses, en fait. Il faut imaginer que c'est des bureaux très serrés avec des murs à chaque fois fermés un petit peu. C'est... comment expliquer ? Je vais le dire avec mes mots. Hein. C'est vraiment le bureau de RAI Laboratoire, le cliché du boulot métro dodo, en fait. C'est vachement spécial, en fait, comme univers.
Merci à vous, Nat et Oriane. Et tout de suite, pour continuer notre émission, nous sommes arrivés ce matin sans savoir quel sujet nous allons faire. On a appris qu'il y avait un député corse et nous, moi, Louison et Erwan, ça nous a fait kiffer parce que ça nous a rappelé nos origines corse et on avait bien envie d'en savoir plus sur lui. Il a accepté de nous recevoir au Parlement ce matin. On vous laisse écouter ses réponses.
Comment l'Union européenne voit la Corse, du coup ?
L'Union européenne, elle voit tous les territoires, donc elle ne voit pas que la Corse. Mais la Corse, c'est un territoire qui a une particularité, c'est que c'est une île. Bon, donc déjà, tous les députés européens le visualisent. Le Maine-et-Loire, c'est pas pareil. Toi. Le Maine-et-Loire, quand tu es bulgare, tu ne situes pas du tout. Tandis que la Corse, même si tu es bulgare, tu peux te dire, tiens, finalement, cette petite île, je me dis quelque chose. C'est comme, voilà, donc le fait insulaire nous donne une visibilité. Bon, ensuite, il y a l'histoire politique. Bon, la Corse, pendant 30 ans ou 40 ans, c'est un point d'actualité qui a été relayé dans l'Europe entière, bon, plus ou moins. Évidemment, bien davantage dans la presse française que dans une presse tchèque. Mais malgré tout, tout le monde sait qu'en Corse, il y a eu de l'actualité politique pendant 30 ans ou 40 ans, et que cette actualité politique, elle n'est toujours pas résolue, et qu'il y a toujours un problème politique qui se pose en Corse.
Quelle est votre position pour l'indépendance ?
Il faut voir, c'est un vaste débat. Parce que aujourd'hui, quand on parle d'indépendance, on ne parle pas du tout de ce dont on parlait il y a 100 ans. Les choses sont différentes. Ni même il y a 40 ans, quand il y a eu la décolonisation, quand la France a donné l'indépendance à ses anciennes colonies. Les choses sont différentes. La France d'aujourd'hui est moins indépendante que la France d'il y a 40 ans. Par exemple, il y a 40 ans, il y avait le franc. Bon, désormais, il y a l'euro. Bon. Donc ça veut dire que la monnaie n'est plus un privilège de l'État français. Donc voilà, donc les choses évoluent. Et donc la construction européenne fait bouger les lignes de la nature des États. Donc je crois que ce qui est important, puis compte tenu du fait que les rares indépendances que l'on connaît, elles ont toujours été gagnées avec des combats sanglants. Bon, c'est jamais une partie de plaisir de faire un combat de libération nationale. Et donc l'évolution des concepts, dépendance, interdépendance au niveau européen, peuvent, dans le futur de l'Europe, donc peut-être 10 ans, peut-être 50 ans, je n'en sais rien, l'histoire c'est un temps long, c'est beaucoup plus long que les mandats politiques. Le mandat politique c'est 5 ans, hein. Phénomène historique, c'est sur 30, 40 ou 50 ans, il peut permettre aux territoires qui ont une originalité bien ancrée, donc cette originalité, elle peut être acquise grâce à la géographie, mais elle peut être aussi acquise grâce à la politique. C'est ce que font les Basques, c'est ce que font les Catalans, par exemple. Et les territoires qui ont une forte originalité vont progressivement, je pense, pouvoir affirmer leur autodétermination, leur droit à être reconnus comme peuple d'Europe et trouver leur place dans la construction européenne. C'est, je pense, le chemin qu'il faut suivre. Et pour suivre ce chemin, pour se positionner sur ce chemin, il faut avoir la capacité de s'affirmer comme une réalité institutionnelle, politique, humaine, forte, avec des actes politiques, comme on le fait, mais aussi des actes symboliques. L'autre jour, on a parlé avec les Basques et les Catalans de faire des tournois de football, par exemple. C'est fait partie des actes qui permettent d'affirmer un territoire et de le faire connaître dans l'environnement politique où nous sommes, qui est désormais l'Europe, qui n'est plus seulement la France, qui est aussi l'Europe, et à partir de là, permettre de construire l'avenir de nos pays et de nos peuples dans le cadre de la construction européenne. Ben voilà, en tous les cas. Donc l'indépendance, c'est un concept qui n'est pas un concept achevé, terminé, définitif. C'est un concept évolutif, et c'est quelque chose qui se construit par le chemin de l'autonomie, je pense, et de l'évolution de l'Europe au-delà, davantage que par une rupture qui serait très probablement une rupture brutale et sanglante.
D'autres régions dans l'Union européenne comme la Corse ?
Il y a deux axes de similitude entre la Corse et d'autres territoires. Il y a l'axe insulaire, les Baléares, la Sardaigne, au nord les îles Féroé ou les îles Hollande. Tout ça sont des territoires qui sont des territoires proches dans les intérêts que nous représentons. Et puis, il y a les similitudes politiques, c'est-à-dire qu'il y a des territoires en Europe où des peuples sont, de par l'histoire, différents des peuples de l'État central et qui ont continué un combat pour être reconnus. Donc, dans l'ensemble français, les Corses ne sont pas seuls. Il y a les Basques, il y a les Catalans, il y a les Bretons, il y a les Alsaciens. Il y a d'autres peuples qui aussi soulèvent la revendication. Alors, ils la soulèvent de façon plus ou moins forte. En Alsace, il y a un mouvement autonomiste alsacien, Oudsarland, qui a, je pense, connu un certain succès récemment. En Corse, on a la présidence de la région, des institutions. Donc, on a un mouvement qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus majoritaire, je dirais, dans la population. Les revendications, mais sur le fond, c'est la même chose. On essaye de faire valoir que quand on est alsacien, on n'a pas eu la même histoire que les Normands, on n'a pas eu la même histoire que les Provençaux, que l'on est dans une autre histoire. Tout ça, c'est l'histoire de l'Europe. Hein. Je n'oppose pas une histoire à une autre. Il n'y a qu'une seule histoire, c'est l'histoire de l'Europe. Mais dans l'histoire de l'Europe, le peuple alsacien, il a eu sa place, son rôle. Et il en a hérité sa culture, sa langue, ses habitudes, son art de vivre. Et il veut le préserver, il veut le faire valoir dans le futur de l'Europe. Voilà, donc tous nous avons participé à l'histoire de l'Europe, Corse, Alsacien et autres. Et tous nous voulons avoir notre place dans le futur de l'Europe.
Après le décès de Colonna, comment l'Union européenne a réagi ?
L'Union européenne n'a pas réagi en tant que telle. Mais c'est comme tous les événements qui... de cet ordre sont des événements qui lancent des messages, malgré tout. Le premier message, c'est la façon dont l'État français développe une répression qui sort des cadres classiques, des cadres habituels, des valeurs de l'Europe. Parce que quand on poursuit un condamné au-delà de sa condamnation, c'est-à-dire que chaque homme reçoit une condamnation s'il a commis un délit, le principe, c'est qu'après cette condamnation, il n'y a pas d'arbitraire. La condamnation, elle est donnée par une instance de justice. Et à partir du moment où la loi prévoit qu'il puisse être d'abord rapproché puis libéré, la loi devrait s'appliquer. Ne pas appliquer la loi, c'est une décision arbitraire. Et l'arbitraire est contraire aux valeurs de l'Europe. Et il a une conséquence, cet arbitraire de l'administration française, c'est que Yvan Colonna est mort. Parce que s'il avait été rapatrié à la prison de Borgo, simplement comme la loi le prévoyait, il serait certainement aujourd'hui toujours vivant. Donc on l'a envoyé dans une circonstance. Alors après, est-ce que cette circonstance a été provoquée, encouragée, organisée peut-être ? Ça, les enquêtes le diront un jour. Mais de toute façon, il y a une tâche sur la réputation démocratique de la France. Bon, ça, c'est la première chose. Et donc, cette tâche, évidemment, elle apparaît. Alors après, il faut se mettre, nous, les Corses, il y a eu des très gros scandales, par exemple, en Tchéquie, il y a eu des journalistes tués pour des intérêts mafieux. Vous allez en Corse, il y a quelques-uns qui en ont entendu parler, mais finalement, ils sont très peu. Donc, il faut se mettre maintenant à la place des Tchèques. Ce qui se passe en Corse, c'est un peu comme... ce que les Corses considèrent vis-à-vis de la Tchéquie, quoi. Il y a une distance. Donc, ça ne fait pas non plus le quotidien de l'actualité européenne. Mais ça existe.
Quand, comment et pourquoi vous êtes devenu député ?
Bon, moi, je suis engagé en politique depuis très longtemps. ça m'a amené à être membre puis responsable d'un parti qui s'appelait l'Union du Peuple Corse à l'époque, qui était donc le parti d'Edmond Simeone, de Max Simeone. À partir de 1981, l'Assemblée de Corse a été créée. C'était la première. Il y a eu donc une assemblée. Cette assemblée a été élue une première fois en 1982. J'étais candidat, je n'étais pas élu. J'étais sur la liste. En 84, j'étais sur la liste, j'étais pas élu. Puis en 86, j'ai été élu conseiller territorial, voilà. Et secrétaire général de l'UPC, secrétaire national. Bon, voilà, après, la vie politique fait que j'ai quitté l'Assemblée de Corse en 98. Et en étant conseiller à l'Assemblée de Corse, on a noué des relations avec d'autres partis autonomistes. On a créé la Fédération Région et Peuple Solidaire. On a noué des contacts avec les Verts. On a permis l'élection de Max Simeone en 89. Puis en 2009, enfin, il y a eu d'autres relations avec les Verts. La fédération a renoué un partenariat et j'ai été désigné pour être le candidat de la fédération sur la liste qui, à l'époque, était conduite par Daniel Cohn-Bendit. Enfin, ça, c'était ma première élection en 2009. Et je viens d'être réuni dans le même type d'accord. Et cette fois sur la liste qui était conduite par Yannick Jadot, j'avais une place qui était la place négociée par Région et Peuple Solidaire sur la liste des Verts. Et puis j'espère que Région et Peuple Solidaire pourra continuer à avoir un poste de député européen parce que pour nous c'est très important. Ça permet de bénéficier de l'expérience et des avancées qu'il y a dans d'autres États d'Europe. Hein, vous savez que, à part la France, il y a des États qui ont quand même des politiques qui accordent beaucoup d'autonomie à leur région. Ici, en Alsace, tout le monde sait que quand on traverse le Rhin ou quand on va en Suisse, c'est pas du tout la même chose. Le canton de Bâle a beaucoup plus de pouvoir que la communauté européenne d'Alsace. Hein. Voilà, donc on peut faire autrement que ce que fait la France. Et quand on est en poste au Parlement européen, c'est un message que l'on fait passer beaucoup plus facilement, tant auprès des Corses et des Alsaciens et des Basques et de tous ceux qui sont concernés, qu'auprès même de l'administration française.
Vous êtes toujours dans l'émission Wunderparlement, faite dans le studio du Parlement européen par les jeunes de Unicité. Et on remercie François Alfonsi, député de l'Alliance Libre Européenne.
Tout de suite, une pause musicale pour rester dans le thème. On a choisi une musique corse. On y quitte tout de suite, Carl Zero.
Cette nuit, j'ai fait un rêve. J'échappais à la grisaille de Paris, à la dépression nationale, à cette France qui fonce droit dans le mur. Cette nuit, j'étais redevenu un homme libre. Cette nuit, j'étais devenu Corse. Oh.
Senti haut, gros, senti stupid. Batté à Corsica, batté per boy. Baba batté à Corsica, batté per boy. Baba batté à Corsica, batté per boy. Dispié goût, oh, gros. Et c'est gorsou, ou ne fatou de sangue, fatou d'animal, faré du tempo. Au ramai, toka à noi pin souti, diripilia à l'ota armada que l'outi volé. Cuiro bachi, eh, ah, dimou foca à frangia et foca ou gouvernou. Libéra télé sous la détouti, imanji, yoni, a rombouti, vene kui, si mou tourna di, pi ou gorsi ke i gorsi. Si mou gorsi, fatin, gorsi gai, pi ou gorsi, di i pi ou gorsi. Si mou gorsi, fatin, gorsi gai, pi ou gorsi, di i pi ou gorsi. Oh, oh, senti stupid, batte a gorsi ga, batte per boy, baba batte a gorsi ga, batte per boy, baba batte a gorsi ga, batte per te. Et à ma glietta, et outre glier sa manière à d'y répondre simple. Oui, on le dit. Gorsi di Shima à fondou, strada dirita ou nostru, maki credibility. Parlez mou gorsu, frappez mou todu, boumé capré intravate. Pense mou gorsu, signez mou gorsu, independence apera nostra terra d'accolta. Cordou serré moun, va essayer di l'onu, chiferé moun, valiza fata fata. Pense mou gorsu, signez mou gorsu, independence apera nostra terra d'accolta. Oh, Corse! D'amour, ou tintou, tino rossi. Caliste a piu bella canta van ou y. Senti oh, oh, senti stupid. Batte a Corsica, batte per boy. Baba batte a Corsica, batte per boy. Baba batte a Corsica, batte per te. Oh, oh, senti stupid. Batte a Corsica, batte per boy. Baba batte a Corsica, batte per boy. Baba batte a Corsica, batte per te. Un contemu, mica. Un
moun, si mou tigale, fe mou ou rap, kaldi, si mou, ou na putana chia di flow la we mou, perche si mou, pin tout, tout y pronti à la lota, tout y pronti à mette une bota.
Vous êtes de retour dans l'émission Vendeur Parlement, qui est réalisée au Parlement européen de Strasbourg par les jeunes en service civique d'Unicité Mulhouse. Merci de nous écouter. À cette session de décembre, comme partout, il y a un marché de Noël, même au Parlement. C'est un marché de Noël solidaire et nous y avons rencontré deux associations. On les écoute tout de suite.
Artisans du monde existe depuis, maintenant 45 ans. Moi, je travaille depuis 42 ans. Et on est les pionniers du commerce équitable. Et on a commencé avec le café qui était vendu à la bourse. Et on trouvait que c'était vraiment les gens qui ont démarré. En fait, l'abbé Pierre, c'est l'abbé Pierre. Après s'être occupé de ce qui, vous savez, ils se sont dit, mais là-bas dans le sud, en Amérique latine, en Asie, en Afrique, ils sont encore plus malheureux que nous. Et on s'est donc intéressé à ce sujet, mais c'est quand même avec le café que ça a commencé, parce qu'il était vendu, et là-bas ils étaient exploités à mort. Bon, ils le sont encore, mais ceux qui sont dans le commerce équitable sont payés un juste prix. Le bon exemple que je donne, une femme, elle est seule, elle a des enfants, elle est veuve, et elle exploite des champs de café. Autrefois, elle amenait son café à la coopérative et elle partait. On ne l'avait pas payée. Elle ne savait pas combien elle serait payée. Maintenant, elle vient avec son café. Elle sait combien elle sera payée parce qu'elle connaît le prix et elle est payée tout de suite. Vous voyez, il y a quand même une différence. C'est un petit exemple. Voilà.
Merci. Pouvez-vous expliquer simplement c'est quoi le commerce équitable?
Le mot équitable, ça veut dire que ceux qui travaillent là-bas, ils sont payés de façon normale, équitable. C'est-à-dire un juste prix.
Voilà. Merci beaucoup.
Et puis, il y a tout un ensemble. Par exemple, au niveau de la santé, ils ont accès aux soins. Les enfants vont à l'école. Les femmes, les handicapés travaillent comme tout le monde et sont payés un juste prix. Bon, le prix du pays, pas en euros, on est bien d'accord. Mais ils sont payés correctement pour pouvoir vivre. Voilà.
Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
Alors, cette association qui a déjà plus de 60 ans, a pour but principal de scolariser les enfants des familles pauvres en Asie du Sud-Est. Nous sommes implantés au Laos, au Vietnam, en Thaïlande, au Cambodge, en Birmanie, mais aussi aux Philippines. Elles aident aussi, bien sûr, les familles qui sont dans la nécessité. Et elle monte aussi des projets comme des foyers scolaires pour accueillir les enfants qui habitent trop loin des écoles, les loger, les nourrir et les scolariser. Nous sommes au Parlement européen depuis plusieurs années déjà, effectivement, et nous sommes chaque année reçus parce que je pense que c'est une association qui a de beaux projets et une belle éthique aussi.
Vous êtes de retour sur l'émission Wonder Parliament sur la radio WNE au Radio Quetch. Tout de suite, nous accueillons en plateau les scouts de Strasbourg. Bonjour et bienvenue à vous.
Pour nos auditeurs, pourriez-vous vous présenter?
Alors, je m'appelle Valentine, j'habite du coup à Strasbourg et je suis scout à la Roberto du coup depuis maintenant 7-8 ans.
Et moi, je m'appelle Oscar, donc pareil, j'habite à Strasbourg, j'ai maintenant 17 ans et ça fait également une dizaine d'années que je suis scout et aujourd'hui, actuellement, on forme un groupe, on est en première année compagnon.
Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste être scout?
Alors le scoutisme, c'est des groupes de jeunes du plus petit âge jusqu'à nos 18 ans et plus, avec des projets à l'année, réunis tous ensemble, voilà.
Et ces projets sont basés sur les valeurs qu'on partage. Donc, par exemple, certaines valeurs qu'on met en avant, on le partage. Et comme l'a dit Valentine, on se regroupe tout au long de l'année pour aboutir à un projet basé sur une action caritative.
Vous avez des exemples?
Ouais, bien sûr. Par exemple, pour cotiser chaque projet, on va faire des extra jobs, donc aider certaines personnes. On va faire une action contre une somme d'argent qu'on nous donne, qu'on nous propose, etc. Et pour aboutir à un projet. Et ce projet se fait souvent dans un cadre caritatif. Et ce cadre caritatif, ça peut être n'importe quoi, ça peut être rénover quelque chose. Ça peut être aider des gens, ça peut être nettoyer des plages par exemple, n'importe quoi.
Et comment vous êtes devenu scout et c'est quoi qui vous a motivé?
Bah alors, moi je suis arrivée chez les scouts à la Robertso par des amis, enfin c'est souvent d'amis en amis, de connaissances, je suis arrivée comme ça là-bas.
Ah, exactement pareil, c'est du bouche à oreille.
Qu'est-ce que vous apprenez en tant que scout et c'est quoi votre activité préférée?
Alors chez les scouts, bah, on apprend un peu vraiment à tout faire. C'est ça qui est assez fou, c'est qu'on apprend à vivre dans la nature, à monter des tentes, à faire des feux. On apprend à faire la cuisine sur un feu de camp. Enfin, on apprend, on crée plein d'amitiés. C'est ça qui est fou, c'est qu'on rencontre plein de gens. Et je pense que c'est ça le plus beau, ce que je préfère moi.
En fait, au scout, on n'apprend pas que l'image de vivre dans la nature, etc. On apprend aussi des valeurs. On nous transmet des valeurs et cette vie en société. Donc on nous apprend à vivre en société et à se partager des choses et des moments inoubliables. Et en plus de ça, on peut dire que les scouts, c'est une école d'une vie.
Vous pouvez nous chanter une petite chanson?
Moi, j'avais la petite musique de La Promesse, donc ça fait juste le refrain. Ça fait une chemise, un foulard et ton sac sur le dos. La promesse d'une main qui t'aide à passer la rivière. Et c'est un petit peu notre slogan de notre promesse d'engagement.
Et pour finir, vous avez vécu comment votre après-midi au Parlement?
Alors, moi, j'étais déjà venue, mais je sais que bah, les gens avec qui je suis venue n'étaient jamais venus. Et c'est hyper impressionnant. Et en y allant, enfin, alors c'est le Parlement européen, mais je ne pensais pas à entendre autant de langues différentes et rencontrer vraiment autant de personnes. Mais j'ai trouvé ça vraiment super de venir et de voir l'envers du décor un petit peu.
Ouais, et quant à moi, j'ai trouvé ça très enrichissant et j'ai été aussi étonné par toute la culture qu'on a pu y rencontrer et les langues étrangères.
Merci.
Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Cette émission sera disponible en podcast. On tenait à remercier toutes les personnes qui ont répondu à notre micro. Merci à Unicité de nous avoir fait vivre cette expérience au Parlement européen. Et merci à Luc et Ninon pour nous avoir fait découvrir leur métier. Et pour cette superbe journée, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt.
Wunder Parlement.
Wunder Parlement.
Yes, do you have my voice?
Wunder Parlament.
Apprendre à faire de la radio.
Il Presidente.
Uccia Radio.
Apprendre à faire radio.
Lire Radio Maken.
Chaque mois au Parlement européen à Strasbourg.
En el Parlamento Europeo de Strasburgo.
Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Czekamy na ciebie.
In Strasbourg.
Toi aussi, tu peux venir.